France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie d'une histoire de la mafia. La mafia est un phénomène humain. Elle a un commencement, une évolution, et elle connaîtra aussi une fin. Giovanni Falcone, assassiné par la mafia en 1992. Ans d'histoire. On l'appelle mafia, Cosa Nostra, l'honorable société ou la pieuvre. Quatre noms pour l'organisation criminelle la plus célèbre de l'histoire. La plus mystérieuse aussi, jusqu'à ce que dans les années 80, plusieurs repentis enfreignent la loi du silence, la sacro-sainte Omerta, en révélant tous les secrets de la mafia, son organisation, ses méthodes, ses liens avec la classe politique et les milieux d'affaires, et ses ramifications très loin de la Sicile, jusqu'aux États-Unis, où quelques Américains d'origine italienne allaient la rendre tristement célèbre. Ils s'appelaient Joe Bonanno, Al Capone, Vito Genovese, Frank Costello ou Lucky Luciano, nés en Sicile, immigrés aux États-Unis en 1906, et après avoir fait fortune dans le trafic de la drogue, revenu dans son pays d'origine, où il est mort d'une crise cardiaque en 1962.
Je suis dans l'église de la très sainte Trinité, dont San Martino, avec ses parements sacerdotaux de deuil, célèbre l'office des morts. Devant l'autel, un cercueil en noyer sculpté, dans lequel repose Lucky Luciano, le roi de la drogue. Dans cette église neuve, aux murs presque blancs, est réunie une société interloque, d'anciens gangsters épulsés des États-Unis, venus rendre hommage à leur ancien compagnon. Ce groupe en tout de 40 personnes au visage bizarre est séparé des 300 journalistes et photographes par un mur de policiers cherchant à interdire les heurts qui paraissent sur le point d'éclater à chaque instant. Ces Italo-Américains cherchent à tout prix d'échapper aux objectifs. Dans un coin, deux officiers de la police américaine photographient tous les présents. Ici Naples, à vous Paris.
Marianne Matarbonucci et Clotilde Champérage, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous avons parlé hier des origines italiennes, plus précisément siciliennes de la mafia, mais pour beaucoup, la mafia, c'est aussi Al Capone, Lucky Luciano, dont on vient d'entendre les obsèques en 1962, ou encore le parrain mythique de Coppola. La mafia en Amérique, donc, on en parle beaucoup, et elle s'est installée bien avant la guerre, bien avant le fascisme, dès le début, ou même la fin du 19e siècle, au début du 20e, avec l'immigration, Marianne Matarbonucci.
Oui, au fond, il y a deux processus de formation de cette criminalité aux États-Unis. D'une part, des gens qui ont émigré et qui, une fois sur place, ont constitué des bandes, des clans, et d'autre part, des boss qui, au fur et à mesure qu'il y avait des épisodes de répression, eh bien, sont allés s'installer aux États-Unis pour fuir donc la répression en Italie. Alors, dès la fin du 19e siècle, il y a une forme de criminalité organisée que l'on n'appelle pas encore mafia ou Cosa Nostra, qui viendra plus tard, mais Mano Nera, en particulier à la Nouvelle-Orléans, à la fin du 19e siècle. Cette criminalité défraye la chronique parce qu'il y a une guerre de clans, et lors de cette guerre de clans, un policier est tué. Et à la suite de cet épisode, eh bien, la population va lyncher des Italiens qui sont plus ou moins liés à cette guerre de clans. Et cela va susciter des tensions entre le gouvernement italien et les États-Unis.
Alors, cette mafia américaine, entre guillemets, on sait de quoi elle a vécu, comment elle s'est enrichie. Il y a eu la période aussi de la prohibition, et ça grâce au trafic de l'alcool qui a fait la fortune d'Al Capone. Et puis après la suppression de la prohibition, de nouvelles activités, notamment la drogue, le trafic de drogue. D'ailleurs, il s'établit entre l'Italie et les États-Unis assez tôt, et c'est une activité nouvelle pour la mafia.
Alors, c'est une activité nouvelle, en effet, qui est particulièrement lucrative et qui, en Sicile, va bouleverser la donne parce que, justement, les clans mafieux se retrouvent avec des quantités d'argent bien plus considérables auparavant, qui vont être réinvestis dans l'économie légale et qui vont décupler leur puissance. place.
Alors, aux États-Unis arrive une nouvelle vague d'Italiens mafieux, tous les Italiens n'étant pas. Hein. Bien sûr, il faut rappeler que l'immigration italienne était très minoritairement constituée de mafieux, mais ces mafieux qui arrivent chassés, au fond, par la répression pratiquée par l'Italie mussolinienne, et qui vont finalement se poser en victimes, et même, dit-on, participer au débarquement allié, essentiellement américain, en 1943 en Sicile. On dit que Lucky Luciano, qui était en prison aux États-Unis, aurait même survolé la Sicile pour annoncer l'arrivée des Américains. Clotilde Champérache.
Là, je crois qu'on retrouve toujours la dimension mythologisée de la mafia. C'est-à-dire que la mafia, effectivement, était présente, mais après, elle s'invente des récits pour se justifier, se légitimer. Donc là, l'idée, c'était effectivement, la mafia était victime des représailles fascistes. Donc, à la libération, elle se pose en victime qu'on doit réétablir. Ce qui est certain, c'est que les forces, la CIA a fait appel à certains mafieux qui étaient aux États-Unis, dont le Luciano, pour avoir des informations pour faciliter le débarquement en Sicile. Après, il y a cette histoire que le Luciano aurait survolé la Sicile en laissant tomber un foulard brodé à ses initiales. Ça, on n'en a aucune trace dans les archives.
En tout cas, les États-Unis s'en sont à l'évidence servis avant de persécuter, entre guillemets, la mafia en 1962, lorsqu'elle était traquée par le frère du président des États-Unis, le ministre de la Justice, Robert Kennedy.
Le ministre de la Justice Robert Kennedy dénonce la montée en puissance de la mafia. La pègre, bien malgré elle, à la une de l'actualité. Le comité sénatorial enquête sur la criminalité sous la direction du sénateur McKellen. Qui était votre parrain? Joe Bonanno. Est-il toujours à la tête d'une famille? Oui. Toujours vivant? Oui. Sénateur, je peux dire quelque chose? Au sujet de ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais ce que je vous ai dit à vous, à la presse, à tout le monde, signe ma perte.
Et c'était le procès d'un mafieux américain, Joe Valachi, craignant que ses propos, que ses révélations ne provoquent sa mort. Je crois qu'il est mort de mort naturelle. Les liens, justement, entre la mafia américaine et la mafia sicilienne?
Oui, les liens peuvent être ponctuellement des liens d'affaires, mais il y a une autonomie de Cosa Nostra américaine qui n'est nullement une succursale de la mafia sicilienne. Et cela, on le verra très bien au moment, par exemple, où Bouchetta, dans les années 1980, va effectivement témoigner parce qu'il aura fui en direction des États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, il constate justement que ce sont deux formes de criminalité qui sont assez différentes et autonomes.
Alors, tandis qu'en Italie, donc, à la suite de ce débarquement allié, eh bien, la mafia va se réinstaller, profiter de l'arrivée des alliés, de la mise en place de nouvelles structures pour s'emparer ou se réemparer, au fond, notamment des municipalités en Sicile que les Américains confient souvent, sans trop y regarder, à des mafieux, Clotilde Champérache.
Oui, effectivement, l'administration américaine en Sicile en 1943 va s'entourer plus ou moins volontairement de mafieux et qu'on va retrouver souvent à la tête des mairies. Souvent, ça a été amplifié par les historiens. On a parlé de 90% des maires siciliens qui étaient mafieux. C'est sans doute exagéré. Mais ce qui est certain, c'est que les mafieux se sont rapprochés des autorités américaines pour s'emparer des nouveaux postes et saisir les occasions aussi bien dans la façade légale devenir maire, mais aussi pour gérer le trafic, la contrebande qui allait avec l'arrivée des Américains en Sicile.
Et même pour essayer de faire proclamer l'indépendance de la Sicile, Marianne Matarbonucci, hein, c'était la prise de position de la mafia sicilienne qui, au fond, essayait de s'appuyer sur les Américains pour obtenir l'indépendance de l'île.
Oui, on en revient à cet opportunisme fondamental. Effectivement, il y a un mouvement très fort pour l'indépendance de la Sicile qui se développe après 1943. Et on voit certains responsables mafieux miser d'abord sur cette tendance-là jusqu'à ce qu'il apparaisse, à partir de 1945-1946, que la Sicile va bien rester arrimée au nouveau régime et à l'Italie républicaine. Et à ce moment-là, on voit en effet les notables mafieux rallier le parti qui va s'imposer comme étant le parti de pouvoir, c'est-à-dire la démocratie chrétienne.
Il n'y a aucune espèce de conviction là-dedans dans les choix politiques. On l'a vu déjà avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les choix politiques que fait la mafia. C'est purement de l'opportunisme.
C'est de l'opportunisme. On a vu la mafia, pendant la Première Guerre mondiale et après, appuyer certaines coopératives paysannes pour essayer de s'emparer d'une partie du morcellement des terres. On va les voir faire la même chose après la Seconde Guerre mondiale, tout en utilisant la mafia aussi comme force de répression du mouvement ouvrier. Et ça va être, par exemple, la fonction qui sera celle du bandit Salvatore Giuliano, qui, le 1er mai 1947, lorsqu'il y a une manifestation très importante des organisations ouvrières et paysannes siciliennes, provoque une fusillade qui va laisser sur le carreau plusieurs dizaines de personnes dans un contexte de lutte sociale très importante en Sicile.
Alors, et aussi avec de nouvelles activités. On a évoqué le racket pratiqué, ce qu'on appelait la vente de la protection que pratiquaient les mafieux au 19e siècle. Mais là, avec le 20e siècle et après la guerre, alors on voit apparaître à côté du racket, on voit apparaître par exemple des trafics nouveaux, la contrebande de cigarettes, la drogue aussi, Clotilde Champérache.
Oui, alors la mafia, sa particularité, c'est qu'elle n'abandonne jamais une activité. Donc les nouvelles activités ne vont jamais remplacer les anciennes. Donc le pizzo, et c'est une constante des activités mafieuses.
Le racket, le pizzo.
À ça s'ajoute la contrebande. Alors pour une raison simple, c'est encore une fois, les Américains sont là, ils ont leur propre ravitaillement alimentaire et vestimentaire. Et il y a des possibilités de détournement de marchés noirs qui vont se développer en Sicile et surtout à Naples. C'est là que Naples devient fameuse pour la contrebande. Après, ça sera la contrebande de tabac. Parallèlement aussi, comme il y a des liens avec les États-Unis, on a développement du trafic de drogue. Alors là aussi, les mafieux siciliens ont longtemps dit qu'eux ne s'étaient jamais mêlés de drogue. Il faut attendre Bouchette en 80 pour reconnaître publiquement que la mafia s'occupe de drogue. Souvent, la défense des mafieux aussi, c'est de dire on l'a fait à titre individuel et non pas au nom de l'association mafia. Et puis, dernière activité qui se développe et qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est typique de la mafia, sont les activités légales. C'est-à-dire que la mafia s'empare des marchés publics. Et ça rejoint ce qu'on a déjà dit hier, ce lien avec la politique. Dès qu'il y a marché public, dès qu'on peut corrompre et avoir des relations, notamment avec la démocratie chrétienne, on s'empare des adjudications, notamment dans le bâtiment.
Là, c'est vraiment un pactole qui va venir du bâtiment, de ces adjudications. Marianne Matarbolucci, c'est vraiment ça qui va établir les grandes fortunes mafieuses, le bâtiment, le ciment.
Dans les années 50, effectivement, au moment où les ressources agraires sont de moins en moins lucratives, on voit les mafieux s'emparer donc de cette activité-là. Et c'est la période vraiment du sac immobilier de Palerme et de Naples aussi, où le ciment devient véritablement de l'or. Alors, la mafia profite à ce moment-là d'un déficit de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a, pour quantité de marché, il n'y a pas d'appel d'offres public, justement, mais des contrats de gré à gré. Et c'est là que l'appui des hommes politiques devient quelque chose de tout à fait capital.
Vous évoquez Naples, là c'est le règne de la Camorra, et notamment de quelque chose qui est très actuel, c'est tout simplement les ordures qui sont en charge, en principe, de la Camorra, et d'où les problèmes qui existent aujourd'hui.
Oui, enfin, ce qui se passe, c'est que donc les municipalités ont délégué le traitement et le recyclage des ordures à des sociétés qui soit appartiennent directement à la Camorra, soit sont plus ou moins contrôlées par la Camorra, et qui donc ont fait venir cette masse d'ordures sans bien se préoccuper de ce qu'il allait advenir ensuite, simplement parce qu'il y avait profit.
Alors des activités pour le contrôle desquelles les familles de mafieuses vont littéralement s'entre-égorger, d'où plusieurs guerres intestines entre les familles de mafieux et qui ont été extrêmement sanglantes. Vous en citez deux, Clotilde Champérache. L'une, la première en 1962, ça c'est à propos de la drogue. L'autre, extrêmement sanglante, c'était en 1978.
Oui, alors dans les deux cas, c'est très lié à la drogue parce que effectivement, l'arrivée d'argent provenant de la drogue fait qu'il va y avoir des familles qui vont vouloir demander plus de pouvoir qu'elles n'en avaient auparavant. En 78, ce qui va être très important, c'est que en fait, Palerme va perdre son caractère central dans la mafia sicilienne et qu'on va avoir un déplacement vers le fameux village maintenant de Corleone. Et donc les familles de Corleone vont s'affirmer et elles sont nettement plus violentes et plus dans une logique d'affrontement, y compris avec l'État italien. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'assassinats politiques et puis des attentats en 93 à Florence, Milan et Rome, ce que la mafia n'avait encore jamais fait.
Oui, attentats politiques, dont un célèbre qui se produit en 1982, c'est l'assassinat du général Della Chiesa, hein, qui était chargé de lutter contre la mafia, justement.
Oui, Della Chiesa qui avait déjà combattu le terrorisme donc et qui arrive à Palerme et effectivement au bout de 100 jours, il est assassiné par la mafia, non sans avoir fait savoir auparavant qu'il se sentait isolé et qu'on ne lui avait pas donné véritablement les moyens donc de lutter. Alors ça va être un premier choc très important qui va être à l'origine de l'adoption d'une loi en 1982 qui permettra à la fois de mener des investigations bancaires plus poussées et qui, d'autre part, permettra d'inculper pour appartenance à la mafia, appartenance à l'organisation. C'est-à-dire qu'il ne sera plus besoin d'avoir des preuves d'une activité délictuelle, mais la dénonciation par un autre repenti pour appartenance à l'organisation permettra l'inculpation. Et c'est sur la base de cette loi que le juge Falcone va pouvoir, en 1986, organiser le maxi-procès de Palerme, qui marque quand même une étape tout à fait décisive dans la lutte contre la mafia.
Et cela grâce à un repenti que l'on a évoqué plusieurs fois, mais qui a été victime, ou plutôt sa famille victime de cette guerre des mafias, puisqu'il avait perdu deux fils, son gendre, son frère, son neveu et son beau-frère. Et l'on comprend pourquoi, en 1984, eh bien, il faisait au juge Falcone des révélations les plus importantes sans doute jamais faites sur la mafia depuis sa naissance au XIXe siècle. France Inter, Claude Guillaumin, le 1er octobre 1984.
Il s'appelle Buccetta, Tommaso Buccetta. Grâce à ses révélations, la police italienne a déclenché la plus vaste opération anti-mafia qui ait jamais eu lieu. En effet, cet ancien parrain déchu, Bertrand Vanier, a donné 366 noms.
Ce que l'on sait, c'est que Tommaso Buccetta, le boss des deux mondes, l'un des rois de la drogue, dont l'empire s'étendait de la Sicile au Brésil, a parlé pendant 45 jours. Traqué par ses anciens amis, battu sur le terrain dans la guerre des clans qui a ensanglanté Palerme entre 80 et 83, Don Massimo s'est donc vengé en parlant. Il a donné les noms des tueurs et des mandataires. Certains gros morceaux sont déjà tombés pendant le week-end, mais d'autres, plus nombreux encore, courent toujours.
Oui, il doit y avoir quand même aujourd'hui un certain nombre de personnes et de personnalités qui ne se sentent pas très tranquilles, non ?
Oui, pour la première fois, disait samedi un magistrat de Palerme, nous sommes arrivés au seuil du troisième niveau, celui qui regroupe les têtes pensantes, qui comprend aussi ces hommes d'affaires, ces hommes politiques chargés du recyclage de l'argent sale. Pour l'instant, un seul d'entre eux est tombé, mais des dizaines d'autres doivent trembler, ou alors, s'ils ne tremblent pas, c'est grave, car cela signifie qu'il n'y a vraiment rien à faire, que la mafia est décidément trop forte.
L'omertà è comandamento, est legge saggia e giusta, o prestau lo giuramento, lo sgarrare assai in ci custa.
Alors l'omerta n'a pas été respecté par Buccetta. C'est vraiment des révélations considérables qu'il fait au juge Falcone. Au fond, on n'avait jamais autant appris de choses qu'avec lui depuis la naissance de la mafia, Marianne Matarbonucci.
Oui, Buccetta est dans la situation dans laquelle était Valacchi, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait partie du clan des perdants et il sent que son existence est menacée. Donc il se met à parler et il a en face de lui un juge qui va utiliser cette fois devant les tribunaux, le juge Falcone, et les témoignages des repentis. Alors, il ne parle pas tout de suite des rapports entre mafia et politique. Il n'en parlera que dans un deuxième temps, après l'assassinat de Falcone et de Borsellino dans les années 1990. Et c'est là que ces éléments-là permettront la mise en accusation d'Andreotti.
Clotilde Champérache.
Oui, 10 ans avant Buccetta, il y avait quand même un autre mafieux repenti qui a parlé, c'est Leonardo Vitale, qui a dit grossièrement tout ce que Buccetta allait annoncer par la suite. Le problème de Vitale, c'est qu'on ne l'a pas cru. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce n'était pas possible qu'un mafieux parle. Donc les carabiniers ont pris note de ses dépositions, ne les ont jamais exploitées. Et on a fini par interner ce mafieux en disant « il est fou ». Et il a été abattu justement en 84 en sortant de l'asile justement, sans doute, parce que Bouchette a commencé à parler et que là, on donnait de l'importance à ce qu'il avait dit.
Alors, ça a donné un maxi procès, vous l'avez dit, en 1986. Et puis, le juge Falcone continue son enquête, devient la bête noire de la mafia qui organisait contre lui l'attentat le plus spectaculaire de son histoire. France Inter, Henri Charpentier, le 24 mai 1992.
Le juge italien Giovanni Falcone a finalement subi la loi du crime organisé. L'incorruptible magistrat, adversaire redouté de la mafia, a donc été assassiné sur une route de Sicile. L'attentat, préparé avec soin, a également coûté la vie à son épouse Francesca et à trois de ses gardes du corps. Le juge blindé, c'était son surnom, a littéralement sauté au volant de sa voiture sur une charge de 1000 kilos de tritol. L'explosion a été déclenchée à distance. Giovanni Falcone, en prenant ses fonctions il y a 11 ans, connaissait les risques du métier. Le magistrat savait que son destin était irrémédiablement scellé.
Ah, certo. Certo che lo sapevo.
Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part les respects qu'on doit avoir pour tout être humain, en piochant, en creusant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous.
Extraordinaire ces mots du juge Falcone quelques temps avant d'être assassiné par ceux dont il dit au fond ils ne sont pas si différents de nous.
Oui, Falcone était palermitain et le fait d'être palermitain, estimait-il, lui permettait justement de comprendre assez bien le mode de fonctionnement mafieux. Et en effet, il répétait à qui voulait l'entendre qu'il savait qu'il avait un compte ouvert auprès de la mafia et qu'un jour ou l'autre, d'ailleurs il y avait déjà eu des tentatives d'attentat contre lui auparavant, il serait voilà, la cible comme il l'a été.
Alors ça c'est vraiment l'attentat de trop, parce que là, une opinion publique assez passive, qui dans certains cas essayait d'être compréhensive envers la mafia, va complètement se retourner. La mafia se retrouve vraiment prise à partie par tous les Italiens, et même en Sicile, Clotilde Champérage. C'est le grand retournement, au fond, l'assassinat du juge Falcone.
Mais pour la première fois, on a une opinion publique qui se déclare ouvertement contre la mafia et qui demande à ce que la mémoire du juge Falcone soit respectée et que, enfin, l'État italien reprenne sa place en Sicile. Donc il y a un grand espoir dans la population, beaucoup d'actions, d'associations qui naissent, parce que ce qui allait aussi avec la mafia en Sicile et dans les autres territoires de mafia, c'est un recul des associations. Les gens sont seuls, isolés. Ils ne peuvent pas s'unir contre la mafia. Là, on a un regain d'espoir qui, malheureusement, ne va pas être satisfait.
Oui, mais quand même, bon, à l'évidence, il y a la volonté d'aller très loin. On ne veut plus s'en prendre à des sous-fifres, on veut vraiment que les politiques qui sont derrière tout ça, ce qu'on entendait, le troisième étage, en quelque sorte, de tous les inculpés, eh bien, vont être menacés, vont être inculpés. Ce sera le cas, alors, le plus célèbre, parce que c'est l'homme politique ou un des hommes politiques les plus importants de l'Italie, le patron de la démocratie chrétienne, 7 fois chef du gouvernement italien, 34 fois ministre, et qui est Giulio Andreotti, Marianne Matarbonucci.
Oui, alors, l'année 92 de l'assassinat de Falcone est aussi l'année où est assassiné Borsellino, avec qui est un autre juge très important, et également Salvo Lima, qui était l'homme d'Andreotti en Sicile, qui incarnait justement les liens entre la démocratie chrétienne et la mafia en Sicile. Et il aurait été assassiné, Salvo Lima, parce que la mafia estimait que le pouvoir politique n'avait pas fait assez, justement, dans le sens de la correction du maxi-procès de Palerme. Alors, va suivre, en effet, sur la base de déclarations de repenti, la mise en accusation d'Andreotti. C'est un procès qui va, entre l'appel et la cassation, s'étaler sur 10 années, dont il résulte un acquittement.
Il faut rappeler de quoi il est accusé. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste.
Alors ça, c'est un autre procès. Oui. En fait, il est accusé d'une part pour un procès pour mafia et d'autre part pour avoir été le mandataire de l'homicide d'un journaliste Pecorelli. Mais pour ce qui est du procès donc, de mafia, il va être acquitté pour insuffisance de preuves. Mais on reconnaîtra qu'avant 1980, Andreotti a effectivement favorisé la mafia. Simplement, les faits seront prescrits à la date du procès. Voilà. Donc, il y a, je dirais, dans les actes d'accusation, quantité d'éléments que les historiens peuvent et pourront utiliser, qui montrent quand même ces complicités qui ont été tissées entre le pouvoir démocrate chrétien, effectivement, et la mafia en Sicile.
Et une mafia dont les dirigeants sont traqués, enfin pour beaucoup d'entre eux depuis de nombreuses années. Les deux derniers étant très importants, il y a eu Totorina, hein, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui lui a été pris en 1993.
Clotilde Champérache.
Oui, Totorine a été pris en 1993 parce que l'État italien a envoyé l'armée, on l'oublie souvent, a envoyé l'armée en Sicile pendant quelques années pour reprendre possession du territoire. Donc ça a été une arrestation très importante qui a été suivie ensuite, mais beaucoup plus tard, par celle de Provenzano récemment. Ce sont deux arrestations importantes, mais quand même, il ne faut pas oublier que ces personnes-là étaient en cavale depuis des décennies.
France Inter, Alain Le Gouguec, le 11 avril 2006.
Le chef suprême de la mafia, derrière les barreaux, après 43 ans de cavale, j'ai bien dit 43 ans, Bernardo Provenzano, que l'on surnommait dans son jeune temps le Fauve, a été arrêté en Sicile, dans la région de Corleone. À près de 73 ans, le successeur de Toto Riina, à la tête de la pieuvre mafieuse italienne, s'est laissé menotter sans résistance. Pour le magistrat italien Guido Loforte, qu'a pu joindre Jean-Baptiste Venditti, cette arrestation prouve que l'on ne désarme pas dans la lutte contre la mafia.
En Sicile, les symboles comptent beaucoup, vous savez, et Bernardo Provenzano n'était plus un chef militaire comme l'était Salvatore Riina, mais il représentait pour la mafia le symbole de la tradition historique et de sa cohésion. Donc, d'un point de vue strictement historique, son arrestation est d'une très très grande importance.
La mafia, écrivez-vous dans votre livre, Clotilde Champérache, est une association qui prime sur les hommes qui la composent. Arrêter son chef ne signifie absolument pas décapiter Cosa Nostra. Autrement dit, elle continue encore.
Cosa Nostra continue et elle est toujours un danger. Et ce n'est pas parce qu'on arrête un chef qu'on a mis le holà à la progression de la mafia. Au contraire, à chaque fois, les forces de l'ordre le reconnaissent elles-mêmes. Bien sûr, il y a victoire, mais la question qui vient tout de suite, c'est qui va prendre la succession ? Donc là, suite à l'arrestation de Provenzano, on avait deux dauphins qui étaient envisagés. Salvatore Lopiccolo, qu'on vient d'arrêter, qui représente la branche affairiste de Cosa Nostra, c'est-à-dire quelqu'un qui savait extrêmement bien gérer les business de la mafia et qui avait plutôt un profil bas, parce que justement, il vaut mieux ne pas se faire remarquer, continuer les affaires. Et l'autre dauphin, c'est Matteo Messina Denaro, donc c'est celui qui est encore en cavale, et lui incarne plutôt l'aile corléonaise, c'est-à-dire la violence. Donc finalement, l'arrestation de Lopiccolo est une victoire, mais c'est aussi un risque pour l'avenir de la mafia.
La mafia continue, vous êtes d'accord aussi, Marianne Matamonucci, malgré toutes les forces qui ont été mises contre elle, malgré les procès?
Tout à fait, et il y a même, à l'heure actuelle, les juges parlent d'un possible retour des Américains, c'est-à-dire de ceux qui avaient fui justement au moment de la guerre des années 1980. Alors la mafia a sans doute de beaux jours devant elle, tant que l'État ne réagira que dans les contextes justement d'urgence, de guerre de clans, et tant qu'il n'y aura pas une action vraiment en profondeur, y compris contre les causes mêmes du développement de la criminalité organisée.
Merci Marianne Matamonucci et Clotilde Champérache. Clotilde Champérache qui est l'auteur de Société du crime, un tour du monde des mafias, publié aux éditions du CNRS. Et Marianne Matamonucci qui est l'auteur d'une histoire de la mafia, publiée chez Complexe en 1999, mais qui est aujourd'hui épuisée. Peut-être réédité très prochainement. À lire également Cosa Nostra, la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, de John Dickey chez Perrin, collection Timpus, Gomorra dans l'Empire de la Camorra, de Roberto Saviano chez Gallimard, et Mafia, l'industrie de la peur, de Jacques de Saint-Victor aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire La Mafia de Charlie Smith, récemment diffusé sur la chaîne National Geographic. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Thibaudeau, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.